Je suis assez âgé maintenant pour avoir fait l'expérience un peu surréaliste de regarder des albums photos avec mes enfants et de voir des photos de mon père quand il était plus jeune que moi. Mon papa avait 24 ans quand je suis né, donc il était bien plus jeune que moi, j'étais quand Jack est né. Et donc j'ai des souvenirs très clairs de lui, de ce à quoi il ressemblait quand il avait mon âge ou quand il était plus jeune que moi. Et en regardant ces vieilles photos, il y a ces souvenirs qui sont revenus en force. Et Jack aussi d'ailleurs, il n'arrêtait pas de dire « mais on dirait toi ça ». Donc il y avait des ressemblances. C'était une expérience presque mélancolique. Genre pas triste vraiment, mais c'était étrange parce que même si mon père est encore plutôt jeune, il a un peu plus de 50 ans, je l'ai vu changer quand même. Quand j'étais gamin, il était en pleine forme physique, genre en pleine forme physique. Il va encore très bien, mais maintenant ses cheveux sont tout gris. Il est un peu plus épais maintenant que quand il avait mon âge, donc je sais à quoi m'attendre. En gros, quand j'étais jeune, mon père, on a des personnalités très différentes. Quand j'étais jeune, mon père était une boule d'énergie. Genre, il ressemblait plus à Jack qu'à moi. Maintenant, il se fatigue. Et on le voit fatigué. Il s'endort sur le canapé comme mon grand-père faisait quand j'étais petit. Quand j'étais jeune, il était extrêmement optimiste. Et maintenant, je le vois inquiet. Alors, je sais qu'en partie, je vois tout ça aujourd'hui parce que je ne suis plus jeune, je suis plus âgé aussi, et donc mon père me permet de voir des aspects de lui-même qu'il ne me permettait pas de voir quand j'étais petit. Mais ce n'est pas tout. Mon père qui était dans mon esprit, genre solide comme du fer. Mon père, c'était la personne constante dans ma vie. Mon père a changé. Et il change encore. De bien des manières, il a changé pour le mieux. Et d'autres manières, il a souffert des changements qui viennent avec le fait d'être un homme un peu plus âgé. Mais en tout cas, il n'est pas pareil maintenant qu'il était avant. Et cette réalité-là est au cœur de plusieurs de nos plus grandes craintes de nous-mêmes, et, sur nous-mêmes, et de nos plus grandes assurances concernant Dieu. Donc, comme j'ai dit, on est dans la deuxième semaine de cette série où on parle des attributs de Dieu. La semaine dernière, on a vu que Dieu est indépendant, c'est-à-dire il existe entièrement en lui-même, il n'a besoin de rien d'extérieur ou de quelque chose ou de quelqu'un d'extérieur pour être ou pour agir. Et donc, aujourd'hui, on va voir une extension plutôt naturelle de cet attribut-là. On va voir le fait que Dieu est immuable. Allez. Alors le mot immuable, c'est un mot un peu compliqué pour simplement dire que Dieu ne change pas. Dieu est immuable, il ne change jamais. Dans le psaume 102 que vous avez lu si vous étiez dans vos groupes de communauté cette semaine, on va focaliser plutôt sur les versets 25 à 28, mais regardons un peu le contexte quand même. Le début de ce psaume est une lamentation solide. On ne sait pas exactement ce qui se passe dans la vie du psalmiste ou du peuple de Dieu s'il parle de manière représentative. Mais ce n'est pas trop ce qui est important ici. Ce qui est important, c'est ce que le psalmiste ressent par rapport à sa situation. Le verset 1 dit « Prière d'un malheureux lorsqu'il est abattu et qu'il expose sa plainte à l'Éternel. » Donc déjà, c'est une bonne nouvelle de savoir qu'on peut exposer nos plaintes devant l'Éternel. On peut lui dire quand on est abattu, quand on est malheureux. Et cet homme dans le psaume, il va vraiment mal. Il est tellement désespéré et faible qu'il oublie de manger, qu'on voit au verset 5. Il pleure de désespoir sur le jugement de Dieu, versets 10 à 11. Mais après avoir dit à Dieu son sentiment concernant sa situation, et de l'avoir dit pendant assez longtemps, pendant 18 versets, il se rappelle il se réconforte en se rappelant de la fidélité continuelle de Dieu. Il se rappelle que Dieu fait bonté, qu'il reste fidèle à son peuple. Il fait bonté aux faibles et aux nécessiteux, comme on voit au verset 19 à 23. Et donc, il dit tout cela, il raconte cette fidélité continuelle de Dieu, et puis, à la fin du psaume, il dit quel est le fondement de sa confiance dans la fidélité de Dieu. Et le fondement de sa confiance en la fidélité de Dieu, c'est la réalité que Dieu ne change pas. Donc, lisons à partir du verset 26. « Autrefois, tu as fondé la terre, et le ciel est l'œuvre de tes mains. Eux, ils disparaîtront tandis que toi, tu restes là. Ils vieilliront tous comme un vêtement, tu les remplaceras comme un habit et ils céderont la place, mais toi, tu es toujours le même et ton existence n'aura pas de fin. Alors le psalmiste est honnête concernant sa douleur, mais il se rappelle de ce qui est vrai. Genre, il se rappelle que ce qu'il ressent en ce moment n'est pas nécessairement ce qui est vrai. Ce qui est vrai, c'est que Dieu est fidèle. Et il sait que Dieu va continuer d'être fidèle parce que Dieu ne change pas. La terre périra, mais toi, tu restes là. Le ciel disparaîtra, mais tu es toujours le même. La semaine dernière, on a vu que Dieu est totalement indépendant. Lui seul a l'asiété, ce qui veut dire que lui seul existe en lui-même et suffit à lui-même. Et par définition, s'il existe en lui-même, son existence ne dépend de rien d'extérieur à lui-même. Ce qui veut dire que rien ne peut arriver qui peut le changer. Comme on lit dans Jacques 1, verset 17, « Tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut. Ils descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni l'ombre d'une variation. » Alors, nous, on entend cela et on le comprend. Dans le contexte limité de cette discussion, on peut le saisir. Mais si on est honnête, on doit admettre qu'à d'autres moments, il nous est quand même plus difficile de le croire. On sait que Dieu ne change pas intellectuellement, mais on a du mal à le croire, même juste en lisant nos Bibles. La plupart des chrétiens, s'ils lisent leur Bible, et malheureusement, ce n'est pas certain que les chrétiens lisent leur Bible, la plupart des chrétiens ont tendance à graviter vers le Nouveau Testament, donc la deuxième partie de la Bible qui raconte l'histoire de la vie et du ministère de Jésus-Christ et puis du début de l'Église. C'est hallucinant le nombre de chrétiens qui ne lisent jamais la première partie, l'Ancien Testament, qui raconte l'histoire du peuple d'Israël, le peuple de Dieu avant la venue de Jésus-Christ. Ou s'ils le lisent, ok, tout le monde lit l'Ancien Testament, s'ils le lisent, ils ne lisent que les psaumes et les proverbes. Ok? Mais soyons pas trop durs avec ces gens-là, qui ne lisent que les psaumes et les proverbes de temps en temps. Même si je ne suis pas du tout d'accord qu'il faut faire comme ça, qu'ils font bien, et je vous encouragerai jour et nuit de lire toute la Bible au moins une fois par an si c'est possible, je comprends quand même pourquoi les gens ont du mal à le faire. L'Ancien Testament n'est pas facile. Et une des raisons pour lesquelles l'Ancien Testament n'est pas facile, c'est que Dieu, tel qu'on le voit dans l'Ancien Testament, peut au premier abord paraître assez différent de Dieu tel qu'on le voit dans le Nouveau Testament. Vous avez déjà sûrement entendu des phrases comme « Le Dieu de l'Ancien Testament est le Dieu de jugement, le Dieu du Nouveau Testament est le Dieu de la grâce. Le Dieu de l'Ancien Testament est le Dieu de la colère, le Dieu du Nouveau Testament est le Dieu de l'amour. Le Dieu de l'Ancien Testament est le Dieu de la punition, le Dieu du Nouveau Testament est le Dieu du pardon. » Et ainsi de suite. Alors, je pourrais parler pendant des heures de pourquoi tout cela est absolument faux. Le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le Dieu du Nouveau Testament. Genre, Yahvé et Jésus-Christ ne sont pas en conflit l'un avec l'autre, c'est le même Dieu. Mais quand même, montrons un peu de grâce à ceux qui le voient comme ça. Pour vous qui avez lu toute la Bible, honnêtement, vous n'avez pas fait l'expérience de lire un passage dans l'Ancien Testament et de vous sentir vraiment alourdi et presque opprimé, et de vouloir courir au Nouveau Testament pour vous rassurer de la grâce de Dieu? Vous avez déjà fait cette expérience-là? Si ça ne vous est jamais arrivé, il est fort probable que vous ne lisez pas votre Bible. Il y a des passages comme ça dans l'Ancien Testament. Parfois, c'est ça que ça fait de lire la Bible. Quand on lit la Bible trop rapidement ou trop superficiellement, on peut sortir avec ce sentiment-là. Alors si c'est vous, ne vous en voulez pas, n'ayez pas peur. Si vous avez tendance à voir Dieu différemment à des moments différents dans la Bible, il y a deux concepts qui peuvent vous aider à faire la paix avec cette soi-disant disparité entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc, regardons d'abord au concept un peu plus difficile. On l'appelle les opérations. Ah, voilà, c'est déjà dessus depuis combien de temps? Les opérations inséparables de la Trinité. Alors, comme d'habitude, vous n'avez pas besoin de connaître le terme, mais l'idée derrière est vraiment importante. Ce mot Trinité veut simplement dire que ce que la Bible veut dire quand elle parle de Dieu. La Bible dit qu'il y a un Dieu et que ce Dieu unique a éternellement existé en trois personnes distinctes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, je n'ai pas le temps d'expliquer en détail comment ça marche et donc je vais vous donner la version courte. Je n'en sais rien et personne d'autre ne le sait non plus. Okay? Donc, c'est fait. Tellement souvent, les gens séparent inconsciemment l'œuvre des trois personnes de la Trinité. Ils pensent, par exemple, que le Père est à l'œuvre dans l'Ancien Testament, que c'est lui le Dieu un peu dur, et que le Fils et l'Esprit sont à l'œuvre dans le Nouveau Testament. Mais les opérations inséparables de la Trinité disent simplement que dans tout ce que Dieu fait, les trois personnes de la Trinité sont toujours à l'œuvre ensemble. On ne peut pas séparer l'œuvre du Père de l'œuvre du Fils. On ne peut pas séparer l'œuvre du Fils de l'œuvre de l'Esprit, et ainsi de suite. Dans l'Ancien Testament, le Père, le Fils et l'Esprit agissent toujours ensemble. Et dans le Nouveau Testament, le Père, le Fils et l'Esprit agissent toujours ensemble. Tout ce que Dieu fait, il le fait dans les trois personnes de la Trinité. Tout ce qu'ils font, ils font ensemble en tant que le seul vrai Dieu. Alors cette réalité-là devrait corriger ces idées que nous avons de Dieu qui semblent différentes dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. Même si c'est difficile pour nous de l'imaginer, quand le Père a envoyé les fléaux en Égypte, qui était là en train de le faire avec lui? Le Fils. Le Fils était là et il était en train de faire l'œuvre du Père avec lui. Quand Jésus guérissait les gens dans le Nouveau Testament qui étaient là avec lui, le Père, le même Père qu'on imagine comme étant un Père dur et un Père de jugement dans l'Ancien Testament. Quand on voit Dieu faire des choses dans l'Ancien Testament qu'on n'attribuerait pas naturellement à Jésus, il faut toujours nous rappeler que le Fils était là avec le Père et il agissait avec lui pour réaliser ce même but, quelle que soit l'œuvre que le Père faisait. Alors, deuxième concept utile pour nous, c'est un peu plus facile, et dans la théologie, on l'appelle la révélation progressive. Alors, la révélation progressive dit que même si Dieu est toujours le même, il ne dit pas tout à son peuple, il ne dit pas à son peuple tout ce qu'il y a à savoir tout en même temps. Il se révèle par des étapes progressives. Donc, à la création, il montre qu'il est le créateur. À Moïse, il donne son nom, Yahvé, le grand je suis. Après l'Exode, il donne au peuple sa loi, le standard de justice qui révèle son caractère parfait. Par la loi, il montre au peuple qu'ils ne pourraient jamais être parfaits eux-mêmes parce qu'ils n'arrivent jamais à obéir à la loi. Par les prophètes, il révèle pourquoi c'est un problème, pourquoi son caractère n'accepte pas et ne peut pas accepter la désobéissance et le péché, et il promet d'envoyer un sauveur pour résoudre ce problème. Et en Christ, il montre à son peuple à quel point sa solution est incroyable. Lui-même prendra l'imperfection de son peuple, il souffrira la punition de son peuple pour eux à leur place. Dieu lui-même subira la douleur de sa propre colère pour le peuple qu'il aime. Autrement dit, il y a des étapes dans le plan de Dieu et il nous aide progressivement à travers l'histoire de la Bible à voir plusieurs facettes de son caractère et de son plan. Mais Dieu lui-même est le même à chaque étape. Le fait qu'on ne voit pas tout d'un coup dès le début de la Bible ne veut pas que Dieu change. Il se révèle petit à petit pour révéler des facettes différentes de sa personne progressivement. Alors tout cela nous rappelle que du début de la Bible jusqu'à la fin, nous apprenons à connaître Dieu progressivement, mais Dieu lui-même ne change pas. C'est Loane qui l'a dit jeudi soir au groupe de communauté, plus on lit la Bible en entier, et plus on voit clairement que c'est le même Dieu qui agit partout. Si on a l'habitude de lire toute la Bible, on voit très clairement que c'est le même Dieu qui agit du début à la fin. Le Dieu de l'Ancien Testament est le Dieu du Nouveau Testament. Il ne change pas. Il est immuable. Alors, voilà ce qu'on entend par l'immuabilité de Dieu. Dieu ne change jamais. Et maintenant qu'on l'a vu, prenons un instant pour réfléchir sur ce que cette réalité change pour nous. D'abord, elle change la manière dont on voit Dieu. L'immuabilité de Dieu, le fait qu'il ne change jamais, c'est la garantie de sa fidélité. C'est ce qu'on voit dans le psaume 102. Le psalmiste parle honnêtement de ses sentiments par rapport à sa situation, versets 1 à 10. Il se rappelle de la fidélité continuelle de Dieu, versets 11 à 24. Et puis, dans les versets 25 à 29, il se repose dans la vérité que ce Dieu fidèle ne change jamais. Et donc, il sera aussi fidèle dans l'avenir qu'il a été dans le passé. Il y a toutes sortes de promesses dans la Bible, des choses que Dieu va faire pour son peuple. Certaines de ces promesses se sont déjà réalisées, ont déjà été accomplies. Et pour ces promesses, on peut voir, alors qu'on lit la Bible du début à la fin, on peut voir comment Dieu a accompli ces promesses-là. On peut voir qu'il était fidèle pour faire ce qu'il a dit qu'il allait faire. Certaines des promesses qu'on trouve dans la Bible n'ont pas encore été accomplies. On attend encore. Alors, on a parlé de ça pendant toute la série dans l'avant. Mais on peut avoir la certitude absolue que Dieu va faire ce qu'il a dit. Il va accomplir ses promesses. Pourquoi? Parce qu'il ne change pas. Le Dieu qui a accompli les promesses ses promesses à son peuple dans le passé va accomplir ses promesses à son peuple dans l'avenir parce qu'il ne change pas. Comme on l'a vu dimanche dernier, rien ne peut faire que Dieu désire quelque chose qu'il ne désire pas déjà. Rien ne peut lui faire changer d'avis. Son immuabilité garantit que s'il dit quelque chose, il va le faire. Il va le faire. Deuxièmement, puisque Dieu ne change pas, on peut le connaître. C'est tout simple, c'est tout bête, mais c'est énorme. Puisque Dieu ne change pas, on peut le connaître. Il s'est révélé dans sa parole, et donc on peut ouvrir la Bible. Pardon. On peut ouvrir la Bible et savoir que la manière dont Dieu se décrit dans ces pages reste vraie encore aujourd'hui. Genre, quand Dieu se décrit dans la Bible, il n'y a rien qui a changé. Il est pareil aujourd'hui qu'il était quand ces mots ont été écrits. On ne pourra, il ne nous a pas dit tout ce qu'on peut savoir sur lui. On ne pourrait jamais épuiser les richesses de sa personne, mais tout ce qu'il nous a dit de lui-même dans la Bible est toujours d'actualité aujourd'hui. Il n'a pas changé au fil des millénaires depuis la rédaction de l'Écriture et aujourd'hui. Et donc, en lisant la Bible et en apprenant comment Dieu se décrit dans la Bible, on peut le connaître tel qu'il est aujourd'hui. On peut connaître le Dieu qui existe aujourd'hui parce qu'il n'a pas changé depuis la rédaction de la parole de Dieu. De manière similaire, son immuabilité nous rappelle de la vérité ou du caractère immuable de l'Écriture, de la Bible. Dans Matthieu 7, 24 à 27, Jésus dit, « C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je les comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. » La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. Le sable bouge constamment sous une maison, mais un rocher est stable et solide. Il ne bouge pas. Les paroles de Christ sont un fondement stable pour nos vies, il dit, parce que ce sont les paroles de Dieu et Dieu ne change pas. Les paroles de Christ sont stables pour nous parce que ce sont les paroles de Dieu et Dieu ne change pas. Le Dieu qui a inspiré le livre de la Genèse, c'est le Dieu qui vit en nous aujourd'hui. Le Dieu qui a préservé sa sainte parole à travers des millénaires nous préserve aussi dans notre salut. Nous pouvons ouvrir nos Bibles et savoir que la vérité de la Bible ne change pas selon le contexte, selon le moment, selon l'endroit, parce que c'est la parole de Dieu et Dieu ne change pas. Puisque Dieu ne change pas, ce qu'il dit ne change pas non plus. Il ne va pas changer son message aujourd'hui alors qu'il a déjà dit dans le passé, parce qu'il ne change jamais. Peu importe où nous sommes ou ce que nous vivons, ses promesses sont sûres et certaines. Elles ne dépendent pas de facteurs externes. Et finalement, son immuabilité nous donne du réconfort. On a beaucoup déménagé quand j'étais petit, donc on n'a pas de maison familiale. J'aimerais bien savoir ce que ça donne d'avoir une maison familiale pour vous qui en avez. Mais peu importe où mes parents ont vécu, quand même, il y a des choses dans la maison qui sont toujours présentes. Et on les a vues il y a quelques semaines quand on est rentré. Les photos de bébés de moi et mes frères, qui sont sur le mur depuis toute ma vie. Depuis toute mon enfance, ces photos sont là. Les couverts et la vaisselle qu'ils utilisent aujourd'hui sont les mêmes qu'on utilisait quand j'étais petit. Cette sculpture franchement étrange du Père Noël qui loue le bébé Jésus est sur l'étagère chaque Noël depuis mon enfance. Et je l'adore. C'est genre, il n'a pas bougé, il est trop bizarre, je suis d'accord, mais j'aime bien. Ils ont plusieurs des mêmes couvertures. Des choses toutes simples comme ça, des couvertures qu'ils avaient quand j'étais petit, avec lesquelles je me suis couvert quand j'étais malade, quand j'étais bébé, quand j'étais gamin. Peu importe où ils vivent, la maison de mes parents a la même odeur. Peu importe combien j'ai grand, genre j'ai 38 ans maintenant, j'ai une famille à moi-même, je n'ai pas besoin de mes parents, pas comme avant. J'ai pas besoin comme quand j'étais petit. Mais quand même, il y a quelque chose de bizarrement réconfortant dans le fait de rentrer chez mes parents et de voir tous ces souvenirs de mon enfance, de sentir les odeurs avec lesquelles j'ai grandi. L'immuabilité de Dieu est notre source ultime de réconfort. Une des caractéristiques qui définissent Dieu dans l'Apocalypse 4, verset 8, après sa sainteté, c'est que le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. On trouve du réconfort dans la puissance et dans la sainteté et dans la sagesse et dans la bonté de Dieu parce que nous lisons ces choses sur lui dans la Bible et nous savons que le Dieu incroyable que nous voyons dans ces pages, qui montre sa puissance et sa sagesse et sa bonté à son peuple, c'est le même Dieu qui vit en nous. Alors quand on lit l'histoire de Dieu qui vient au secours de son peuple en Égypte, si on réalisait que ce Dieu-là qui fait ces choses incroyables, en fait, c'est celui qui vit en moi par son esprit. Il prend soin de nous et nous sert. Son immuabilité, le fait que c'est le même Dieu aujourd'hui qu'à cette époque-là, est une source incroyable de réconfort pour nous. La vérité de l'immuabilité de Dieu change tout. Elle change la manière dont on voit Dieu et elle change aussi la manière dont nous nous voyons nous-mêmes. Dieu ne change jamais. Nous, par contre, on change constamment. Et d'ailleurs, c'est notre point, tout simplement. Nous changeons constamment. On n'est jamais constant. On dit ce qu'on va faire, on dit qu'on va faire quelque chose et on en fait une autre. On change d'avis, on revient sur nos engagements. La réalité de notre changement perpétuel est vraie à tous les niveaux possibles. Toutes les cellules de notre peau meurent et sont remplacées à peu près tous les 27 jours. On perd, vous savez ces choses, on perd tous entre 50 et 100 cheveux tous les jours. Ça me fait flipper à chaque fois quand même. Et évidemment, il y a beaucoup plus d'exemples que je pourrais donner. On le voit physiquement et on le voit aussi dans notre comportement, même sur des périodes très courtes. C'est pour ça qu'on aime les psaumes. On voit David, une minute, qui dit « Oh Dieu, tu es mon Dieu, tu es toujours avec moi, mon âme est satisfaite en ta présence. » Et littéralement, trois lignes plus tard, « Mais où es-tu, Seigneur? Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Genre, on a fait ces expériences aussi. On se sent bien, on est heureux, et une toute petite mauvaise nouvelle, disons une grève de transport à Paris, peut changer tout cela très rapidement. Et si c'est vrai à une petite échelle, en ce qui concerne notre humeur tout simplement, combien de plus cela est vrai pour des sujets plus grands? On a beaucoup de couples, comme vous savez, dans l'église qui se sont mariés récemment ou qui sont en train d'aller vers là. Quand on fait des préparations mariage avec les nouveaux couples, on leur pose beaucoup de questions concernant où ils se voient dans plusieurs années. Ce qu'ils comptent faire en termes de la vie de l'église, des enfants, des vacances, la gestion des finances et ainsi de suite. C'est bien de parler de ces choses et on fait toujours attention pour dire que ces choses peuvent changer. Genre, on discute là. Mais ces choses peuvent changer et probablement vont changer au fil du temps. Le plan qu'on a aujourd'hui n'est pas nécessairement le plan qu'on va avoir demain. Mais peu importe combien on dit ça, quand on est dans un couple, on est presque toujours surpris quand les choses changent. Genre, tu as dit que tu veux deux enfants et maintenant tu en veux six. on a fait un plan, mais on a parlé de tout ça, on a établi un plan. Oui, on avait un plan, mais les gens changent. On change d'avis, on change d'opinion et de préférence. C'est juste entre parenthèses, quand on est frustré les uns avec les autres, bizarrement, on utilise souvent le langage de l'immuabilité pour montrer les imperfections de l'autre. Mais tu fais toujours ça. Tu ne fais jamais ce que tu dis que tu vas faire, et ainsi de suite. Bref. Les êtres humains sont toujours décevants. Toujours. Non pas parce qu'on est aussi mauvais que possible, mais parce qu'on est rarement prévisible. On dit qu'on va faire quelque chose, mais on change d'avis. Mais il y a une bonne nouvelle dans tout cela aussi. La bonne nouvelle derrière le fait que nous changeons constamment, c'est la vérité simple que nous pouvons changer. Nous pouvons changer. Un des mensonges les plus destructeurs et fréquents dans les relations, c'est celui qui dit « c'est comme ça que je suis, tu ne peux pas me demander d'être quelque chose que je ne suis pas ». C'est faux. On change tout le temps. Tout le monde change tout le temps. On peut changer pour le pire, mais on peut aussi changer pour le meilleur. Alors, il faut bien dire, ces changements pour le meilleur ne sont qu'accessoires si l'esprit ne fait pas l'œuvre de changer nos cœurs. Mais combien de fois est-ce qu'on a regardé à nos vies, on a regardé à la parole et on a douté que l'esprit peut vraiment faire cette œuvre de changement en nous? On regarde à ce que la Bible nous appelle à faire, ce que Dieu nous appelle à être, le type de personne qu'il veut nous faire devenir, et on est horriblement intimidé, même juste en regardant quelque chose d'aussi simple que les 10 commandements. On les regarde et on se dit, mais c'est fichu ça. Ça, je sais très bien, je ne pourrai jamais être à la hauteur de ces commandements. Mais encore une fois, les gens changent tout le temps. Même sans la foi, les gens apprennent à créer de nouvelles habitudes, à voir des choses différemment, à manger plus sainement, à être plus généreux. Alors si on peut faire ça, même sans la foi, imaginez ce qui peut se passer lorsque le Dieu immuable de l'univers vit en nous et nous transforme comme il a promis de le faire. Imaginez combien nous pouvons changer si ce n'est pas nous qui produisons ce changement, mais Dieu qui le produit en nous. Et c'est exactement ce qu'il a promis de faire. Dans Ézéchiel 36, versets 26 à 27, Dieu dit à son peuple, « Je vous donnerai un cœur nouveau. » Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Et dans Philippiens 2, versets 12 à 13, Paul explique comment il fait. Il dit, « Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, non seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Nous travaillons, nous résistons au péché et nous grandissons dans la discipline spirituelle et nous nous servons les uns les autres. Et dans tout ce travail qu'on fait, on grandit en conformité à Jésus-Christ. Et on grandit bel et bien en conformité à Jésus-Christ parce que c'est Dieu. Le Dieu immuable d'Abraham, le Dieu immuable de Jacob, le Dieu de Moïse qui ne change pas, qui travaille en nous pour nous conformer à l'image de son Fils, en appliquant l'œuvre accomplie de Jésus-Christ à nos cœurs et à nos vies. Il nous déclare juste et puis il nous rend juste. Et c'est avec cette même grâce qu'il agit depuis le début. Depuis le début de la Bible, on voit cette même grâce à l'œuvre. Il choisit son peuple, et il pardonne son peuple, il leur donne sa loi, donc sa volonté pour leur vie, et il rend son peuple saint comme il est saint. Il a toujours agi de cette manière. Nous pouvons changer parce que Dieu ne change pas. Il agit aujourd'hui comme il a toujours fait. Le Dieu qui a transformé les saints de l'Ancien Testament et du Nouveau, le Dieu qui a pris un meurtrier et qui l'a fait devenir l'apôtre Paul, le Dieu qui a pris le péché ultime, le meurtre de son Fils, et qui par ce péché a œuvré le salut pour tout son peuple, ce même Dieu œuvre encore en nous aujourd'hui pour nous changer. Il ne change jamais, ce qui veut dire que nous pouvons changer. Parce que ce n'est pas nous qui le faisons, mais le Dieu immuable qui le fait en nous. Alors, cette réalité de l'immuabilité de Dieu place deux grands appels sur nos vies. D'abord, elle nous appelle tout simplement à l'obéissance. Le Dieu qui ne change pas nous dit à quoi, ce à quoi il ressemble et il nous invite à devenir semblables à lui. Il envoie son Fils vivre notre vie, subir notre mort, et il nous invite afin que nous n'ayons plus la menace de la condamnation sur nous. Et une fois qu'il nous réconcilie avec lui-même et nous déclare juste, il travaille continuellement en nous par son esprit et dit « Ok, travaillez avec moi, laissez-moi vous changer ». Frères et sœurs, ce que nous étions, ce que nous avons toujours été jusqu'ici, n'est pas ce que nous serons. Ce que nous étions n'est pas ce que nous serons. Nous ne sommes pas condamnés à rester dans cet état pour toujours, quel que soit notre état aujourd'hui. On n'est pas condamné à en rester là. Pour nous qui avons été sauvés par le Saint-Esprit de Dieu, le péché n'est plus la position de défaut pour nos cœurs. Il nous a libérés du péché. Et donc, nous pouvons dire non. Nous ne sommes plus obligés de dire oui au péché. S'il y a une vérité que je prie tout le temps que vous saisissiez, presque plus que tout autre, c'est celle-ci. Grâce à l'œuvre de Christ, pour nous, le péché n'est plus inévitable. Le péché n'est pas inévitable pour les enfants de Dieu. Nous pouvons choisir de parler avec justesse et avec humilité de notre chef au travail plutôt que de nous plaindre de lui derrière son dos. Nous pouvons le faire. Nous pouvons choisir de fuir le péché plutôt que de céder à la tentation. On peut choisir d'être généreux, de faire des sacrifices pour le royaume de Dieu plutôt que d'amasser une richesse de jouets inutiles pour nous-mêmes. Nous pouvons choisir de ne pas coucher avec notre copine, de ne pas prendre sa pureté à la légère, mais de la protéger pour le jour où on peut y prendre plaisir comme Dieu l'a prévu. Oui, on peut faire ces choses. Et toute autre chose à laquelle la Bible nous appelle, puisque le Dieu immuable a accompli sa promesse de nous libérer du péché, nous pouvons apprendre à aimer ce qu'il aime. Nous pouvons apprendre à désirer ce qui est vraiment désirable. Nous pouvons apprendre à faire confiance qu'il sait mieux que nous. La réalité de notre Dieu immuable nous appelle à changer par son esprit à son image. Donc ça, c'est la première chose. Cette vérité nous appelle à l'obéissance. La deuxième chose, la vérité de l'immuabilité de Dieu expose notre idolâtrie et nous invite à placer notre seul espoir en Dieu seul. Combien on est poussé à placer notre confiance dans des choses instables, dans ces choses qui ne pourraient jamais supporter le poids de notre confiance. Comme la maison sur le sable, nous bâtissons nos vies et nos espoirs et nos identités sur des choses qui changent constamment. Et du coup, par conséquent, ces faux dieux nous déçoivent à chaque fois. Il est difficile de voir à quel point cette tendance à nous confier dans des choses inconstantes, notre tendance à l'idolâtrie dans nos propres vies est persistante. Et donc, pour nous aider à le voir, pensez à la manière dont on parle du mariage, encore une fois. Les gens citent très souvent 1 Corinthiens 13 au mariage. Je ne sais pas à combien de mariages auxquels vous avez assisté ou on a cité ce passage-là. La plupart des gens, même les non-croyants, ont entendu ce passage, mais j'ai toujours hésité à l'utiliser. Je n'ai jamais utilisé ce passage dans les mariages. On lit dans ce passage, donc 1 Corinthiens 13, verset 4, « L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. » Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Alors j'ai entendu ce passage cité à des mariages avant, et ma réaction pessimiste à chaque fois, c'est « bonne chance ». Il n'y a aucun mariage depuis toute l'histoire humaine, aucun mariage n'a pu être fidèle à la promesse de ce type d'amour. Aucune relation, tout point, n'a été à la hauteur de cet amour-là. Le mariage ou les amitiés très très proches sont des outils diagnostiques merveilleux. Ils nous permettent de voir très très rapidement à quel point on aime mal les autres, à quel point on ne peut pas faire ça. On n'est pas toujours patient et plein de bonté. On est souvent envieux, on est souvent orgueilleux. À quel point est-ce qu'il est facile de chercher notre propre intérêt? À quel point est-ce qu'il est impossible pour nous de tout pardonner et de tout supporter quand tout comprend le péché de quelqu'un d'autre visé contre nous? Finalement, ce passage, j'ai toujours du mal à le citer à des mariages, mais en fait, je lisais un livre de Jen Wilkin récemment qui parlait justement de ce passage. Et en lisant ce livre, je me suis rendu compte qu'elle avait raison. Ce passage a plus de sens quand on réalise qu'il ne décrit pas notre amour, mais l'amour immuable de notre Dieu qui fait grandir en nous. Donc, je le savais déjà, mais c'est là où je me suis rendu compte que finalement, il y a peu de passages qui sont plus appropriés pour citer dans un mariage. Parce qu'il y a peu de passages qui décrivent mieux ce qui se passe dans un mariage ou dans une relation très proche. Ce passage décrit le type d'amour que nous ne pouvons parfaitement recevoir que de Dieu lui-même. Et donc, ce passage, dans le contexte d'une relation très proche, nous rappelle que l'autre, mon époux, mon épouse, mon ami, n'est pas à la hauteur de cet amour auquel nous sommes appelés. Nous ne pouvons pas être le Dieu de quelqu'un d'autre. Et si nous nous rappelions que nous étions incapables de nous fournir l'un à l'autre l'amour stable et constant dont on a véritablement besoin, nous serions beaucoup plus prêts à nous aimer de la bonne manière, avec grâce pour les manquements de l'autre, avec le désir de donner l'amour qu'on est capable de donner par l'Esprit, et en nous reposant dans le Dieu qui nous aime parfaitement et qui nous fait grandir à l'image de cet amour-là. Il y a un seul qui ne change pas, et lui seul est Dieu. Lui seul peut supporter le poids de nos attentes, de nos espoirs, de nos craintes, de nos identités. Et lui seul a donné son Fils, le seul moyen que nous avons de bâtir, pour bâtir notre maison sur le rocher. Alors que nous réalisions à quel point nous et tous les autres sommes instables et inconstants, nous sommes invités à placer notre confiance en le seul constant de cet univers, Dieu lui-même, en qui nous pouvons faire confiance parce qu'il ne change jamais. Je vous invite à prier avec moi. Père, nous te remercions pour ton caractère immuable. Nous te remercions, Père, pour cette réalité que tu ne changes jamais. Que quand on lit le livre de la Genèse, c'est là où je suis dans mon plan de lecture aujourd'hui, quand je lis les histoires qui sont racontées sur ce que tu as fait pour établir ton alliance avec ton peuple et pour préserver cette alliance avec ton peuple, ce que tu as fait à ce moment-là, le Dieu que tu étais à ce moment-là, tu es le même Dieu aujourd'hui. Je peux avoir l'assurance dans la nouvelle alliance que tu as établie avec ton peuple parce que tu es le même Dieu. Donne-nous, Père, soif de te connaître, l'assurance que nous pouvons te connaître, parce que tu es le même, hier, aujourd'hui et à jamais. Donne-nous de ne pas bâtir nos vies sur des choses qui ne peuvent pas supporter le poids de nos vies, mais de nous reposer entièrement en toi, qui est stable, qui est constant, et dont la puissance et la sagesse et la souveraineté et l'amour ne changent jamais. Donne-nous d'observer ton caractère, d'apprendre à aimer ce que tu aimes. Parce que si tu as aimé quelque chose il y a des milliers d'années, tu les aimes encore aujourd'hui, et donc ces choses-là sont véritablement dignes d'aimer. Donne-nous d'obéir à tes paroles, parce que tes commandements nous révèlent qui tu es et ce que tu aimes. Donne-nous de faire confiance en toi que ce que tu dis de nous est vraiment la meilleure chose pour nous. ce que tu nous dis de faire, ce que tu nous appelles à être, c'est vraiment ce qu'il y a de meilleur pour nous. Et ce que tu déclares de nous en Jésus-Christ ne bouge pas. Nous pouvons avoir l'assurance de notre salut, non pas parce que nous ne changeons pas, mais parce que toi, tu ne changes pas. Et tu nous as déclarés justes en Jésus-Christ. Donne-nous de reposer dans ces vérités merveilleuses. Au nom de Jésus-Christ, nous le prions. Amen.